Le journal est présenté par Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour, bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors on atteint aujourd'hui le pic de chaleur de cette deuxième canicule en moins d'un mois en France, avec 20 départements en alerte rouge, 60 en alerte orange. L'Organisation mondiale du travail pointe et analyse les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie. Décryptage à suivre avec Anne Lorchouin dans un instant.
La chaleur qui met notamment la santé des personnes âgées en danger.
Alors que 20% des personnes sans domicile fixe ont plus de 60 ans. Reportage de Fiona Mogadam dans ce journal.
L'armée chinoise pourrait-elle intervenir à Hong Kong?
Alors que depuis début juin se multiplient les rassemblements anti-Pékin, la question se pose et hier, Pékin a souligné que l'option est bien sur la table, précision d'Angélique Forger dans un instant. Et puis c'était il y a tout juste 110 ans, Louis Blériot devenait le premier homme à traverser la Manche par les airs. Ce matin, c'est un autre homme qui s'élance et sans avion, c'est Frankie Zapata, l'homme volant qui avait fait sensation le 14 juillet dernier au-dessus des Champs-Élysées. Reportage de Rosalie Lafarge à la fin de ce journal. Le pic de chaleur sera atteint cet après-midi en France avec 43 degrés par endroit dans les 20 départements placés en alerte rouge canicule par Météo France. Une situation inédite. 73 départements sont toujours frappés par la sécheresse alors que des records de température ont aussi été battus hier en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Avec le réchauffement climatique, les conséquences sur la santé et l'environnement se multiplient, mais aussi les conséquences sur les conditions de travail. Le syndicat Force ouvrière avait demandé une prime chaleur pour les personnels des urgences, une demande rejetée par la ministre de la Santé. Mais plus largement, quelles sont les conséquences économiques de la multiplication des pics de chaleur? En termes d'heures de travail perdues, de perte de croissance, les effets sont bien réels et l'Organisation internationale du travail a mené une enquête sur la question à Lorchouin.
L'impact du stress thermique sur la productivité du travail est une conséquence grave du changement climatique. C'est ce qu'annonce l'OIT dans ce rapport paru à l'occasion du centenaire de l'institution. Ce stress thermique, c'est une chaleur supérieure à ce que le corps peut tolérer sans subir de dommages physiologiques, soit des corps travaillant à plus de 35 degrés avec un fort taux d'humidité. Le réchauffement climatique, donc, aura des conséquences sur le travail à relativement court terme. Un rapport publié l'année dernière déjà dans la revue médicale The Lancet avait chiffré les heures de travail perdues suite aux canicules de l'année 2017 à 153 milliards d'heures de travail perdues, autant de manque à gagner pour les États mais aussi les familles. D'ici 2030, ce sont les pays à faible revenu qui devraient souffrir le plus de l'augmentation des températures parce qu'ils ont moins de ressources disponibles pour s'adapter. L'Inde, le sud-est asiatique, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Sud, notamment, qui cumulent un fort taux de travailleurs pauvres, d'emplois informels, d'agriculture de subsistance et d'absence de protection sociale. À lui seul, le secteur de l'agriculture cumulerait 80% des heures perdues. La chaleur touche surtout des femmes qui constituent justement dans l'agriculture de subsistance la majorité de la main-d'œuvre. Pourtant, il existe des normes dans le droit international du travail permettant de travailler dans de bonnes conditions malgré la chaleur. L'employeur est par exemple tenu de fournir au minimum 3 litres d'eau par jour, d'adapter les horaires, les équipements, de dispenser des formations. L'OIT appelle donc les États à réagir.
Anne Lorchouin, les personnes âgées font partie des personnes les plus fragiles face aux risques sanitaires de la canicule et les plus de 60 ans représentent 20% des personnes SDF recensées dans les centres d'hébergement d'urgence. À Paris, depuis 2 ans, la mission interface du SAMU social intervient auprès d'eux. 2 travailleurs sociaux s'occupent de 250 personnes dans cette situation et les besoins ne cessent d'augmenter. Pour y faire face, le SAMU social de Paris a besoin de personnel. Il a lancé une grande campagne d'appel aux dons. Ne les laissez pas vieillir dans la rue. Fiona Mogadam est allée à la rencontre de Marcel, 77 ans, qui fait partie de ces 250 personnes suivies par la mission Interface.
Marcel a travaillé toute sa vie dans une entreprise de lessive où il faisait des statistiques. Mais à la retraite, un accident de vie l'a conduit à la rue. Désormais, cela fait un peu plus de 2 ans qu'il habite dans un centre de soins et d'hébergement du SAMU social de Paris.
J'avais une compagne, elle est décédée. Je me suis retrouvé expulsé de mon appartement. Je suis arrivé dans un hôtel. Mes économies sont passées en 10 ans. Et après, l'hôtelier m'a dit, regardez la porte, il me dit si c'est pour moi. Je me suis retrouvé dehors. J'avais 74 ans. Je suis resté 6 mois à peu près.
6 mois que Marcel traverse difficilement à vivre dans un square et dormir sur un banc. Et
avec tout ce que ça comporte d'agression, il n'y a pas d'hygiène du tout. Pour aller aux toilettes ou pour prendre une douche, c'est toute une problématique impossible à concevoir. Quand on chute, on est dans un effet toboggan, on ne peut pas se retenir. La personne que j'aimais est partie ailleurs, celle qui te sollicitait me tournait le dos. J'avais plus de raison. de vivre.
Après des soucis de santé, Marcel finit par être hébergé par le SAMU social. Thomas Baud est l'un des deux éducateurs de la mission Interface. Pour ce public particulier, vivre à la rue est encore plus compliqué.
C'est les vulnérables parmi les vulnérables parce que c'est un public qui n'est pas en mesure de se défendre, pour une majorité d'entre eux en tout cas, face à la rue, face au vol, face aux difficultés somatiques qui augmentent. C'est difficile quand on a 60 ans de s'allonger sur un banc pour dormir. C'est difficile de solliciter un travailleur social qui a l'âge de son petit-fils. C'est tout ça aussi qui fait que c'est compliqué pour les personnes de plus de 60 ans d'être accompagnées dans les dispositifs de l'urgence sociale.
Quant à Marcel, maintenant qu'il va mieux...
J'ai retrouvé quelque chose qui est important, la dignité. Quand je suis arrivé ici, j'étais morose et triste, mais depuis 6 mois, je suis tombé amoureux. Voyez.
Et sa priorité est de retrouver son propre logement.
Et pour faire un don pour cette campagne du SAMU Social de Paris, une adresse samusocial.paris, action-senior.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont avec cette question. Sophie, l'armée chinoise pourrait-elle intervenir à Hong Kong?
Oui, alors que les manifestations et la répression secouent le territoire depuis début juin et le mouvement des rassemblements anti-Pékin, la question se pose, l'armée chinoise finira-t-elle par intervenir dans le territoire hongkongais? Les avis divergent et les rumeurs circulent, mais aujourd'hui, Pékin a mis les choses au clair. Oui, c'est possible. À Shanghai, les précisions d'Angélique Forger.
C'est une petite phrase prononcée par le porte-parole du ministère chinois de la Défense qui laisse planer la menace. Je cite « L'article 14 de la loi sur les garnisons contient des dispositions claires. » En effet, la Basic Law, la mini-constitution de Hong Kong, stipule bien que pour maintenir l'ordre ou apporter du secours en temps de catastrophe, les troupes chinoises présentes sur le sol hongkongais peuvent intervenir à la demande du gouvernement de Hong Kong. Depuis la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. L'armée populaire de libération stationne en ville mais reste très discrète. Si Pékin a souhaité mettre les choses au clair plus d'un mois après le début de la crise, c'est sans doute parce que dimanche dernier, les manifestants ont franchi une ligne rouge pour le pouvoir chinois. Ils ont souillé d'encre noire l'emblème national, un symbole fort qui a visiblement profondément irrité Pékin.
Angélique Forger. Au moins 5 personnes ont été tuées ce matin dans un attentat suicide à Kaboul qui a été suivi de près par 2 autres explosions dans la capitale afghane. Un homme à moto s'est fait exploser contre un bus dans l'est de la ville, faisant 5 morts et 10 blessés. Il y a des femmes et des enfants parmi les victimes selon les autorités. Le bus appartenait au ministère des Mines et du Pétrole. 2 autres explosions dont l'une attribuée à une voiture piégée ont suivi peu après. La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan alors que les États-Unis mènent des pourparlers avec les talibans pour tenter de parvenir à un accord de paix après bientôt 18 ans de guerre. À Porto Rico, le gouverneur Ricardo Rossello annonce qu'il va quitter ses fonctions. Une décision qui intervient après un vaste mouvement de contestation sur l'île, provoqué après 2 semaines et la publication de messages homophobes et misogynes échangés entre le gouverneur et des conseillers. Annonce faite hier soir dans une allocution télévisée, Ricardo Rossello quittera le pouvoir le 2 août prochain. Il serait remplacé par la secrétaire à la justice, Wanda Vasquez. Pour la 2e fois après un premier vote mardi, le socialiste Pedro Sanchez doit se soumettre cet après-midi à la confiance du Parlement pour briguer un mandat de 4 ans à la tête du gouvernement espagnol. Il n'y aura pas d'accord avant le vote cet après-midi, estimé ce matin le chef du gouvernement espagnol. L'affaire semble donc bien mal partie. Seul Podemos, de gauche radicale, a accepté de négocier un pacte pour former une majorité avec les socialistes. Mais hier soir, donc, les deux formations ont constaté un constat d'échec. À Madrid, Mathieu de Taillac.
Podemos, de gauche radicale, souhaitait encore discuter hier. Le parti socialiste, le PSOE de Pedro Sanchez, indiquait au contraire que les négociations sont rompues. 3 mois se sont écoulés depuis les élections législatives d'avril dernier, mais les socialistes ont louvoyé, regardant à gauche, mais aussi au centre, pensant que les libéraux de Ciudadanos pourraient peut-être opter pour l'abstention et leur laisser un peu plus de liberté vis-à-vis de Podemos. Ils ont fini par constater cette semaine que la seule majorité possible est à gauche et que Podemos ne braderait pas son soutien. Leur chef de file a averti, sa formation, je cite, « ne se laissera pas humilier ni piétiner ». Sur le papier, la distance entre les demandes des uns et des autres ne semblait pourtant pas insurmontable. Podemos réclame une vice-présidence du gouvernement et 5 ministères, principalement les affaires sociales, le travail et l'environnement. Les socialistes étaient prêts à céder une vice-présidence et 3 ministères. Podemos dit que ses demandes étaient une base de négociation, le PSOE que sa proposition est sa dernière offre. Si Sanchez perd son vote, un accord est encore théoriquement possible jusqu'à la fin septembre. Sinon, de nouvelles élections seront convoquées automatiquement. Les sondages donnent l'avantage aux socialistes, mais les électeurs de gauche risquent fort de bouder les urnes.
Mathieu de Taillac, qui pourrait aller encore plus loin dans l'analyse, retrouvez la revue de presse internationale de Camille Magnard sur franceculture.fr.
En France, Sophie, à Nice, la famille de Geneviève Le Guay demande la destitution du procureur de la République de Nice.
Oui, Jean-Michel Prêtre est soupçonné d'avoir menti lors de ses premières déclarations à la presse à propos de la charge policière qui a blessé cette militante d'attaque lors d'une manifestation de gilets jaunes à Nice. Le journal Le Monde révèle que le procureur a voulu éviter des divergences trop importantes avec la version fournie par Emmanuel Macron, selon ses mots. C'est lorsqu'il a été entendu par sa hiérarchie qu'il aurait confié cela, selon le journal. Une position du procureur qui interroge Maxime Fayolle.
Lors de cette audition, Jean-Michel Prêtre se voit reprocher sa double version de l'agression de Geneviève Le Guay. L'une, quelques heures après les propos d'Emmanuel Macron, il affirme alors que la militante n'a pas été touchée par les forces de sécurité. L'autre, quelques jours après, où il déclare le contraire. Alors, pourquoi deux versions ? Pour ne pas mettre le chef de l'État dans l'embarras, aurait dit le procureur, selon le journal Le Monde. Ce n'est pas son rôle, proteste la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil.
La justice doit exercer ses fonctions de manière totalement indépendante de ce que pense, de ce que souhaite, de ce que veut le pouvoir exécutif. C'est le principe de séparation des pouvoirs qui est absolument nécessaire à ce que l'état de droit soit garanti. Donc c'est bien sûr pas le rôle du procureur de la République.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est quant à elle bornée à rappeler la loi en vigueur.
Évidemment, les procureurs ne reçoivent aucune instruction de qui que ce soit. Ils sont donc responsables de leur communication. C'est à eux qu'incombent les choix des mots qu'ils utilisent.
S'il n'y a pas eu de consigne directe, le problème est ailleurs pour Katia Dubreuil. C'est toujours l'éternelle question de l'indépendance du parquet.
Il y a toujours cette question de la nomination qui fait que la carrière des magistrats du parquet est dans la main, effectivement, de la ministre de la Justice. Ce n'est pas de garantie suffisante pour s'assurer que certains magistrats ne vont pas chercher à plaire finalement au pouvoir. Et c'est évidemment un problème dans les équilibres démocratiques.
Le syndicat réitère sa demande que la nomination et l'avancement des magistrats du parquet soient confiés au Conseil supérieur de la magistrature.
Maxime Fayolle. 110 ans après la première traversée de la Manche par les airs, ce n'est pas de la science-fiction aujourd'hui, c'est bien un homme volant qui s'apprête à lui tenter de traverser la Manche. Franky Zapata, qui avait fait sensation le 14 juillet dernier au-dessus des Champs-Élysées, va tenter donc de rejoindre l'Angleterre depuis Sangatte, dans le Pas-de-Calais, sur un appareil de sa création, le Flyboard, une plateforme à turboréacteur. Et quand le monde des super-héros devient le monde réel, Rosalie Lafarge est sur place.
Il enlève ses baskets, enfile les deux bottes fixées sur la plateforme. Quelques secondes de concentration et Franky Zapata appuie sur sa télécommande. L'impression d'être dans un dessin animé. L'homme vole sans avion, sans aile, debout dans les airs, juché sur sa petite plateforme propulsée par 5 turboréacteurs.
Les turboréacteurs me propulsent en fait et avec le poids de mon corps, je la dirige dans la direction dans laquelle je veux aller.
Franky Zapata espère bientôt pouvoir passer la barre des 200 km/h. Aujourd'hui, son appareil lui permet d'atteindre les 190, une prouesse sportive, mais avant tout technologique.
On a en gros inventé une nouvelle manière de voler. On volait en s'adaptant à la machine. Aujourd'hui, il a fallu adapter la machine à ce qu'on voulait faire avec. Il faut partir d'un côté, aller de l'autre. Et en fait, c'est 36 km. Et c'est comme ça. Si tu veux passer, il faut passer. Donc en fait, tu pousses le corps humain dans des directions que tu savais pas que tu pouvais le faire en fait. Et après c'est un challenge, j'ai envie de dire, entre la montre qui tourne, la douleur et l'envie de réussir quoi. C'est un mix entre trois paramètres.
Si futuriste et pourtant tellement réaliste, la technologie mise au point par Franky Zapata intéresse l'armée, pas sa machine actuelle en tant que telle.
Je vois mal un soldat atterrir et finir en courant en chaussettes, oui.
Mais l'inventeur marseillais a reçu 1 300 000 euros de subvention de l'armée pour développer sa plateforme et essayer d'en faire un outil utile pour les forces spéciales, par exemple. L'idée étant de la rendre plus autonome, plus légère et surtout moins bruyante.
Un reportage signé Rosalie Lafarge pour France Culture. Le pic de chaleur arrive aujourd'hui avec des températures supérieures à 40 degrés annoncées sur ces 20 départements en alerte rouge canicule. 60 départements sont toujours en alerte orange depuis hier. La zone de ces 60 départements s'étend de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes en passant par les Pays de la Loire, le Grand Est et l'Occitanie. 20 à 27 degrés en moyenne. En revanche, sur la Bretagne et les côtes normandes qui restent épargnées par cette vague de chaleur, partout ailleurs donc les températures sont déjà en ce moment même entre 26 et 28 degrés sur quasiment l'ensemble du territoire. Cet après-midi, donc, nous serons entre 36 et 43 degrés pour les maximales.